I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume très simplement en une heure toute l'actu tech, internet et gadgets, les choses que vous devez retenir, savoir. Et ben pas la peine d'écumer tous les blocs de la Terre et de passer des heures et des heures à tout comprendre. En une heure seulement, on vous résume tout ça et on vous explique ce qui est important. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle Freebox V8, de la fin de l'Internet des gens gentils. Enfin, on va vous expliquer ça. On va également parler un petit peu d'Apple qui essaye encore de nous entuber et de plein d'autres choses. Je suis Patrick Béja et très heureux aujourd'hui de recevoir l'équipe de Feu, le podcast Upload au complet, mais son esprit vit toujours à travers vous. J'ai nommé Jérôme Kainborg, Cédric Bonnet et Corben Manuel Dorn. Comment allez-vous, messieurs, tous en même temps, 3, 2, 1 ?
Très bien.
Ça va ?
Ouais, pas mal.
Très bien, magnifique.
J'aime beaucoup l'équipe de feu. Il faudrait qu'on fasse un truc. L'équipe de feu.
L'équipe de feu, c'est très bien dit. On va vous parler de donc la Freebox V8, dont la présentation vient de se terminer il y a à peine une heure. Mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, à savoir Damien Deville, Christelle P, Stéphanie, Asdasadzk. Je pense qu'il a mis son nom comme ça pour me tester. Edgar Rosa, Eric Perrer, Eberly Benjamin,
Manu Pépère.
Pardon ?
Tu as ta langue à fourcher. C'est ah. Eric Pépère.
Ah, Pépère. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Il t'a dit Eric Perrer.
Ah, mon
non,
Dieu.
C'est Eric Pépère.
C'est Eric Perrer. Non, Pépère.
Non, Pépère. Deux fois.
Tu sais, c'est Manu
Eric,
from...
Moi, je dis, c'est un motif de retirer son
non,
son
non, non. Tu vois, Eric, moi, je pense à toi, au fait que Patrick dise mal ton nom, alors que, bon, voilà, tu fais partie des gens qui contribuent à cette magnifique émission et tu mérites... Qu'on dise correctement ton nom.
J'en suis désolé, j'ai honte. Mais tu sais quoi, pour le suivant, ça va être compliqué, parce que c'est Manu from GIF ou Manu from GIF. C'est difficile. Il y a également Jérôme Perret et David et tous ceux qui, bien sûr, soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvtech.
Tu l'as dit à Eberly Benjamin ou pas ?
Mais oui, je l'ai dit, Eberly Benjamin.
Bon,
j'ai dit
salut à toi, Benjamin, j'espère que tu vas bien et que tu profites de ton après-midi, si tu nous écoutes dans l'après-midi.
Merci à vous
J'aimerais
tous.
J'aimerais dire bonjour à mes parents aussi.
C'est ça. Salut Denis, si tu nous écoutes, de Epitech Bordeaux, j'espère que tout va bien pour toi.
Ben, on vous fait des bisous à tous, les parents de Jérôme, Denis, Eric, tout le monde, merci à vous tous. Et donc, on va parler de la Freebox V8, mais avant ça, un petit erratum très important. Sur l'épisode précédent, enfin, il y a deux semaines, parce qu'on avait l'épisode avec Ulrich Rosier, qui a d'ailleurs beaucoup plu. Merci à tous pour tous vos retours. On parlait de la presse en ligne et la manière dont on gère les sites, et ça vous a beaucoup plu. Donc, merci. J'étais pas sûr de ce que vous penseriez de cet épisode spécial. Je suis heureux que ça vous ait plu, y compris avec la grosse pub pour Frandroid et Numérama. C'est sûr que et Ulrich en a beaucoup parlé, mais c'est normal, c'est ce qu'il fait. Donc,
il parle de ce qu'il connaît.
Il parle de ce qu'il connaît, exactement. Mais donc, l'épisode précédent, j'avais dit que Windows 10X tourne sur processeur ARM. Et c'était une erreur, une grossière erreur qui a fait exploser les yeux et les oreilles de Cédric quand il a entendu
ça. Exactement. Justement, c'est marrant parce que quand j'ai vu que tu avais mis l'erratum, je me suis dit, OK, il va en parler. Sinon, je te serais tombé dessus direct.
Bah écoute, le Slack, les patriotes qui ont accès au Slack me sont tombés dessus également.
Ah, mais il est en feu, le Slack.
EGW au premier d'entre eux. Donc, merci à vous tous de me l'avoir signalé. Il tourne bien sûr sur processeur Intel. Je pense que Microsoft a des ambitions avec cette version de Windows 10 de s'orienter vers le marché des processeurs ARM également, mais ça n'est pas encore le cas spécifiquement annoncé au jour d'aujourd'hui, expression que tout le monde adore bien sûr. Et donc, voilà, erratum, ça n'est pas le cas. Mais parlons plutôt de la Freebox V8 et donc de cette conférence qui a eu lieu ce matin au moment où on enregistre, où la nouvelle Freebox a été présentée. Et je ne vais pas faire dans la tendresse, moi j'ai trouvé que la conférence n'était pas hyper réussie, pas hyper intéressante, que la Freebox, dont souvent on attend des nouveautés qui vont faire avancer le monde des télécoms, même ouais. si Free a un marché qui est qu'une partie des télécoms, généralement il pousse aux fesses l'ensemble des opérateurs. Là j'ai trouvé que c'était moyen, avec quelques éléments qui m'ont interloqué, on va dire. Alors, d'une manière générale, la nouvelle Freebox V8 s'appelle la Freebox Pop. Elle est composée de deux éléments, le serveur et le player. Comme d'habitude, ce sont des petites boîtes rondes qui sont assez élégantes, je dirais, qui ont des caractéristiques tout à fait classiques. Elle sera disponible à 29,99€ sans engagement pendant la première année. Et donc, si vous êtes déjà client, vous devez payer 39,99€ ou cette somme-là après 12 mois. Et les choses notables, alors, elle reçoit du 5 gigabits par seconde, en upload 700 mégabits, ce qui est pas mal. Elle a une connectivité qui est classique. Les ports Ethernet font il y en a un en 2,5 gigabits, deux en 1 gigabit. Bref, ça, c'est des données qui intéresseront pas forcément tout le monde. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est le fait qu'elle ait du Wi-Fi 5 intégré et non pas du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 5 étant une technologie qui a maintenant, je ne sais pas, ça doit faire 4-5 ans qu'on commence à l'avoir dans tous nos appareils, peut-être même un peu plus. Et surtout, le Wi-Fi 6, là, on y est. Tous les équipements commencent à en être équipés, justement. D'ailleurs, Xavier Niel a mentionné cette technologie en disant « Oh, c'est du Wi-Fi AC », le nom beaucoup plus cryptique que le chiffre qu'on comprend très facilement. Il a dit « Oh, c'est largement suffisant pour tout le monde parce que peu de gens étaient équipés. » Enfin, il ne l'a pas mentionné comme ça, mais en gros, les gens ne sont pas équipés en Wi-Fi plus récent, évidemment, parce que c'est en train d'arriver maintenant. Mais pour une box qu'on va regarder aller entre 2 et 5 ans, il me paraîtrait évident qu'il faut la dernière technologie pour que ça fasse avancer les choses. Et surtout, il a fait tout un plat de la connectivité, de la puissance, de l'avancée de Free dans ce domaine. Et donc ça, j'étais vraiment complètement interloqué. Bref, c'est peut-être un détail pour certains. Le player fait du HDR, du Bluetooth, une connectivité 1 gigabit, un port USB 3 pour attacher un disque dur, par exemple. Une nouvelle interface qui est Android, donc on peut télécharger toutes les applications, mais qui a également une philosophie un petit peu repensée. Un partenariat avec la Ligue 1 qui ne vous permettra pas de voir tous les matchs, donc ça c'est important, mais quand même une interface sympa qui vous met une notification quand il y a un des meilleurs moments de la Ligue 1, c'est-à-dire les buts en gros, qui vous permet de le regarder, les quelques, je ne sais pas, 30 secondes du but, quand vous êtes en train de regarder autre chose. C'est sympa, mais c'est pas la entre guillemets vraie Ligue 1. Voilà, en gros, l'ensemble des informations. Cédric, toi qui es ouais. un petit peu qui a navigué dans les univers des télécoms, ouais. qu'est-ce que tu as pensé de cette Freebox?
Ouais, alors tu as oublié quand même un truc, c'est que le player, c'est Android.
Je l'ai mentionné, oui, Android.
Ouais, voilà, mais c'est important parce qu'on a Google Assistant dessus. Enfin, tu vois, tu dis, on n'a pas de Wi-Fi, machin, ils font avancer normalement le truc et tout ça. Moi, je trouve qu'elle est plutôt dans l'air du temps. L'idée du Wi-Fi 6, effectivement, on a l'impression que ça fait un peu pingre. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que Free, en fait, est sur un rythme de renouvellement qui est un peu particulier. C'est-à-dire que, normalement, c'est on annonce une grosse box, puis une petite. Une grosse box, puis une petite. Et là, c'est la petite. Mmh. Souvenez-vous, hein, il y avait la Freebox Revolution, il y a eu la Crystal, il y a eu la Freebox V7. Maintenant, on a la Pop, la Delta, hein, donc, et maintenant, on a la Pop. Et en fait, c'est toujours sur ce rythme-là. Et là, en fait, on a beaucoup critiqué Free sur l'embourgeoisement de l'offre, dans le sens où eh bien, ça coûtait très cher de prendre une Freebox Delta, hein, rappelez-vous, avec le fait qu'on ait presque un achat forcé de la box, qu'on pouvait éventuellement garder plus tard, mais dont on perd la moitié des services. Ça avait été très critiqué à la sortie de la Delta. Les prix sont ultra élevés de la Freebox Delta. Et là, en fait, on retombe sur l'offre, le fameux prix psychologique des 29,99, même si c'est que pendant un an et après on passe à 39. Mais on retombe sur ça. Mmh. Et donc, le matériel qui l'accompagne, bah, il fait le café. Honnêtement, tu vas avoir une connexion qui est plus que correcte avec tes appareils à la maison et ainsi de suite. Effectivement, il va manquer un peu l'esprit NAS qu'on a avec la Delta. C'est une box qui est faite pour la consommation de médias, ce qui est 90% voire plus du marché chez nous. C'est-à-dire que tu vas avoir une box pour accéder à tes contenus de la Ligue 1. Enfin, tu vois, c'est l'exemple type. Canal+, Netflix, Prime Video avec des boutons dédiés sur la télécommande. Tu es vraiment dans la consommation de médias. Et c'est pour des gens qui se disent, moi, je veux la télé, Internet illimité, et puis c'est tout, quoi. Savoir ouais, qu'elle fait domotique, NAS, machin, je m'en fous. Donc, payer 50 balles par mois pour avoir une Delta, c'est pas intéressant. Et ils ont perdu une partie de leur clientèle à cause de ça.
C'est là, intéressant, ouais, tu me fais retomber un petit peu de mes petits nitpicks, de mes petites comment dire, je me suis énervé sur des trucs qui n'avaient pas forcément grand chose qui n'étaient pas très important, et t'as raison, c'est la petite, donc c'est pas si important que ça. Ouais.
Et alors le Wi-Fi 6, l'intérêt du Wi-Fi 6, c'est qu'effectivement on a le Wi-Fi Mesh qui est en standard dans le protocole sans se poser aucune question, mais le Wi-Fi AC gérait déjà le mesh, donc le répéteur Wi-Fi qu'il propose d'avoir va faire le café en fait.
Oui, c'est un truc que j'ai pas mentionné, effectivement on a des répéteurs, un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi, voilà. Qui vont retransmettre le signal si vous avez une maison qui est un petit peu plus grande et le Wi-Fi ne l'atteint pas.
Ouais, des murs qui passent, voilà.
Voilà.
Des zones,
et
des
c'est
zones un peu
intégré
même
dans
le jardin.
Système, c'est facile à mettre en place, donc effectivement voilà. Ça c'est un truc qui est tout intégré dans l'écosystème.
Et ça c'est ce qu'on pouvait déjà faire avec le Wi-Fi 5, le Wi-Fi AC, hein, donc sans souci. Le mesh, la différence, c'est que ce protocole mesh, qui était en gros une brique qu'on rajoutait sur le Wi-Fi AC, dans le Wi-Fi 6, en fait, c'est géré nativement. Il a même été construit autour de cette idée qu'on va utiliser des répéteurs, on va pouvoir faire du roaming entre différentes balises et tout ça. C'est ça la différence essentielle au-delà du débit. C'est vraiment ça la grosse, grosse différence. Mais dans les faits, ce choix-là économique... pour eux, ça permet de contenir le prix de la box, en fait.
Ouais. Bah, justement, moi, c'est la question que je pose. C'est un peu comme mettre aujourd'hui des prises micro USB à la place de l'USB-C. Est-ce que ça fait faire de réelles économies de mettre du Wi-Fi 5 à la place du Wi-Fi 6? Parce que sinon, c'est un peu une erreur de parcours, quoi.
Je pense que si. Je pense qu'aussi, les puces en elles-mêmes...
c'est une fin de stock, en fait. Ça,
elle va coûter 2 euros au lieu de 4, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais sur le volume que tu en fais de box, c'est pas négligeable, en fait.
C'est sûr.
Ouais, moi, je trouve quand même, parce que, bon... quelque part, c'est pas comme la 5G, le Wi-Fi 6. Enfin, je sais pas vous, mais on commence... Enfin, c'est pas une technologie qui va arriver. Les smartphones que tu achètes aujourd'hui sont Wi-Fi 6.
Oui,
et j'avoue que ça me pèterait un peu les bonbons.
Mais mais honnêtement, si vous voulez un bon réseau Wi-Fi, vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi de votre box à aucun moment.
Enfin, ouais,
donc qu'elle soit Wi-Fi 6, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dans les faits, on s'en fout un peu. Si vraiment vous êtes un aficionados de techno et que vous voulez la dernière norme réseau, vous avez un routeur chez vous. Moi, j'ai un routeur chez moi, jamais
bon, écoute,
le Wi-Fi de la box.
Tu m'as fait retomber, très bien.
Pour moi, c'est un faux débat. Le Wi-Fi 5, c'est un faux débat. Et il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'on est vraiment... La Freebox Pop, c'est l'offre Cristal, c'est-à-dire c'est la Freebox pas chère.
Plus entrée de gamme,
Je trouve que pour une Freebox pas chère, on en a déjà vachement pour notre argent.
D'accord.
Quand tu vois les contenus
populaire.
Avec... c'est ça. Freebox Pop, c'est Uber Pop, quoi, tu vois. Non, mais honnêtement, c'est ça.
Ouais, ouais.
Et quand vous voyez que vous avez l'assistant Google, une box Android et tout ça, enfin, c'est la Freebox Mini 4K de l'époque aussi, vous voyez. C'est vraiment cette génération entre deux qui est j'actualise mon offre en étant plus agressif sur le prix finalement plutôt que sur la techno. Et la Freebox V9, on aura droit au remplacement de la Delta. Il y a vraiment ce cycle-là. D'ailleurs, je me demande si Xavier Niel n'a pas fait une interview il n'y a pas longtemps où il expliquait ça. Mais on est vraiment dans cette idée-là de le gros modèle puis le petit, le gros modèle puis le petit. C'est comme si chez Apple, on avait l'iPhone qui sortait en septembre et le SE qui sortait en avril, puis l'iPhone en septembre, puis... C'est vraiment un cycle comme ça, quoi, en fait.
Effectivement. Mmh. Bon, Corben, t'as l'air d'être d'accord. Vous êtes tous liés contre moi.
J'ai appris ça tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle Freebox et de loin, j'ai vu la photo, j'ai cru que c'était un aspirateur, en fait. Je me suis dit que Free est sorti un aspirateur robot, j'ai dit cool. Mais en fait, je suis assez d'accord avec vous, hein, sur le fond technologique de la chose, ça m'a l'air très bien. Après, il aurait pu faire, Xavier Niel, une presse 100% en ligne. Ça aurait peut-être été plus rigolo qu'avec des journalistes et zéro distance de distanciation sociale, mais sinon c'était cool, quoi.
Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu.
5 gigabits quand même.
Pardon ?
Elle supporte le 5 gigabit descendant, cette box. Hein.
Oui, ouais, ouais, tout ouais. à fait. Enfin, le 5, et puis t'as... bon, il faut vraiment tout utiliser en même temps pour arriver à
oui,
5,
c'est ça.
Mais effectivement...
Il aurait pu streamer sa conf en disant « Je suis derrière une Freebox Pop, et vous voyez, ça lague c'est pas, vrai. Et je vous montre à quel point elle est bonne, ma Freebox. Ouais. »
Il y avait des moments où c'était un petit peu malaisant, j'ai trouvé, quand il a donné un coup de pied dans la balle de l'écran et machin, c'était un peu... Bon, ok. J'ai trouvé moins bon que... Enfin, bon. C'était bon, tu l'as remis dans le contexte, Cédric. Je pense que maintenant je comprends mieux le but, et elle accomplit son but, et la conférence accomplit son but. Donc, très bien.
Et ça fonctionne un peu sur le répéteur, est hyper important. C'est vraiment partie des choses que les gens chez eux, souvent les gens râlent. Je suis obligé de redémarrer ma box parce que le wifi machin, ils veulent pas acheter un routeur à 100 balles ou même 50 balles. Là en fait, ils ont vraiment une solution de wifi mesh qui ressemble énormément à ce qui se passe avec Google Wifi. Donc c'est ultra simple de se connecter au réseau. Il y a un petit voyant qui vous dit si la position du répéteur est OK ou pas. Enfin, c'est ultra simple. Quoi.
Non, c'est vrai. Je me demande si avec, parce qu'on peut, elle est modulable, on peut avoir les différents éléments. Je me demande si c'est pas un peu plus cher si on veut un répéteur. Mais bon, à voir.
Je crois que c'est genre 10 euros de remise ou un truc comme ça. Enfin, 10 euros plutôt de plus, mais bon.
Ouais, donc ça compte. Bon, par contre, on a droit au forfait mobile illimité, en 4G bien sûr, pas en 5G, mais illimité pour 9,99€ quand on est abonné. Ça fait un ensemble qui est quand même à un prix attractif, et c'est ce qu'ils cherchaient. Parlons un petit peu un mouvement de fond, on va dire, qui est beaucoup plus solennel. On a eu la petite partie sympa geek matérielle. Maintenant, c'est société.
Et non, je
vous vous souvenez Mais non, on veut savoir ce que tu penses. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines de ça, Twitter avait labellisé un tweet de Donald Trump, un événement important, dont j'avais dit que c'était un moment historique pour moi et que ça allait avoir toute une série de conséquences. Et ben maintenant, on vit dans le monde de ces conséquences, avec un mouvement vraiment sans précédent où on va dire l'intégralité, ou en tout cas une grande partie des réseaux des réseaux sociaux du net, et j'inclus YouTube dans les réseaux sociaux, se sont mis à bannir, supprimer, contrôler les contenus vraiment limites qu'ils hébergeaient jusqu'à maintenant. Et d'une manière générale, on a une sorte de reconsidération de ce qu'on peut accepter de dire et de laisser dire sur Internet. C'est-à-dire que on a vu YouTube qui a banni des chaînes de suprémacistes blancs. D'ailleurs, en France, on a eu Dieudonné et Alain Soral récemment qui ont vu leur chaîne YouTube fermée. On a vu Reddit qui a banni des subreddits qui avaient pignon sur rue depuis des années et des années, même s'ils avaient été mis en quarantaine parfois, comme The Donald, qui a énormément participé à la campagne de Donald Trump. Il y en a eu d'autres, il y en a genre 2000 qui ont été supprimés. On a eu Twitch qui a banni temporairement la chaîne Donald Trump. Reddit, Twitch, Snapchat, enfin bref, tous. Et donc, pour ne rien vous cacher, j'ai dans les notes de l'émission à peu près 50 liens sur les différentes réflexions et news sur ce sujet. Et ça, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Hein. Il y en a eu beaucoup plus dans ma veille. Donc, on est vraiment sur un mouvement de fond qui, à mon avis, va avoir des conséquences durables. Et on n'est pas dans une situation où on est en train de dire « on ne peut rien dire sur Internet », mais vraiment dans la réalisation qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut agir. Je crois c'est Internet The Reckoning. Si c'était un film, ça serait ça. C'est la fin de l'Internet où tout le monde est gentil. Et il y avait une idée que si on laissait tout dire, eh bien, on allait voir les gens qui disaient les choses les plus inacceptables et donc les pousser à changer d'avis ou revoir leurs idées. En gros, que le racisme exposé était un racisme combattu. Et c'est une idée qui existe sur Internet depuis sa création, depuis la création et l'évolution du net à double sens, c'est-à-dire pas uniquement le web 1.0, mais le web 2.0 où tout le monde communique ensemble. Et cette idée, donc, était hyper importante. C'était, oui, il y a des choses inacceptables, mais quand on les voit, au moins, on sait qu'elles sont là et on peut les combattre. Et je crois que sur les 10 dernières années, on s'est rendu compte que, oui, dans une certaine mesure, on peut peut-être les combattre, mais encore plus que ça, on est forcé de constater que, on leur donne pignon sur rue, en fait. Et on leur permet de se propager encore plus que on ne peut les combattre, on se donne les moyens de les combattre. Et je crois que c'est cette réalisation-là qui a été forcée par le mouvement initié par Twitter. Ça, c'est mon interprétation, mais ça ne veut pas dire que on va contrôler toutes les opinions sur Internet. Bien sûr, ça va un petit peu dans ce sens, mais si on pèse le pour et le contre, personnellement, comme je le disais dans les épisodes précédents, il y a quelques années, je vous aurais dit non, il faut tout laisser. Aujourd'hui, mon opinion a évolué et je vous dis, il y a des trucs, c'est pas productif, quoi. C'est même contre-productif de laisser certains trucs. Et je comprends que des sociétés privées arrivent à la conclusion aujourd'hui que, il y a des trucs au final, c'est pas l'effet escompté, c'est pas on le voit donc on peut le combattre, c'est on le voit donc ça se propage et donc il faut faire quelque chose contre. Et oui, c'est peut-être pas. On a un argument philosophique qui va dire « Ah, mais ça veut dire contrôler la vérité, qui a le droit de dire des choses ?» Eh bien, peut-être, mais ça veut dire aussi que dans l'ensemble, en tant que société, on regarde certaines choses et on dit on n'est pas obligé de l'accepter et de leur donner une plateforme. Ouais. Donc ensuite, il y aura évidemment des dérapages, des effets non intentionnés de tout ça. Mais personnellement, je crois que c'est un début de nettoyage de l'Internet qui, malheureusement, était devenu nécessaire. Vas-y.
Je suis d'accord avec toi. Après, je modérerai un peu le côté un peu nettoyage de l'Internet parce que je pense que c'est quelque chose qui est très propre aux plateformes, en fait. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., ou même Reddit. Mais le truc, là, maintenant, c'est que je pense que tu l'as vu. Par exemple, The Donald, donc, qui était le fil Reddit de soutien à Donald Trump, s'est fait tuer de Reddit, bien, oui. Il me semble. Ouais. Et donc, ils ont créé un nouveau site maintenant qui s'appelle thedonald.win, où en fait, c'est Reddit, mais version 100% Donald Trump, avec que du Donald Trump. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les mecs sont en train de déchanter un peu sur le côté réseaux sociaux, parce qu'effectivement, il y a de la modération, hein, pas de l'ascension, mais de la modération, et ils peuvent plus forcément dire tout ce qu'ils veulent, etc. Et c'est en train de se... Alors, c'est bien et c'est mal en même temps. C'est-à-dire que ces communautés-là qui n'ont plus trop leur place maintenant à cause de la modération de Facebook ou de Twitter sont en train de se regrouper sur ce pourquoi Internet est prévu à l'origine, c'est-à-dire des sites, des serveurs décentralisés, d'autres serveurs. Et moi, je trouve ça bien parce que moi, je pense qu'Internet devrait fonctionner comme ça plutôt qu'avec que des grosses plateformes qui centralisent tout. Mais ça ne va pas tuer dans l'œuf le côté... Internet n'est pas en train de se nettoyer. Les plateformes sont en train de se nettoyer. Twitter en train de faire le ménage, Facebook, mais Internet continuera à être Internet, quoi.
Complètement. C'est évident, mais je veux dire évidemment que ces choses-là ne vont jamais disparaître et il y aura toujours des gens dans des recoins peu recommandables du net comme de la société. La différence, c'est qu'on est en train de décider en tant que groupe de dire on n'est pas obligé de le mettre sur les devants de la scène. Et il y a des sites entre guillemets respectables, et je mets des grosses guillemets, mais tu vois, des sites respectables qui décident, pour nous, tu vois, c'est une sorte de curation, pour nous, sur notre site, on estime que ce genre de discours n'a pas sa place. Et après, c'est au public de décider quel site il va aller fréquenter plutôt que d'autres. Et des sites comme thedonald.win, et tu vois, des sites où, entre guillemets, nous sommes pour la liberté d'expression, ce qui généralement veut dire on laisse les gens faire des commentaires racistes. Généralement, je généralise, mais il n'empêche. Il y en aura toujours, et il y en a toujours eu. Mais ça clarifie les choses, au moins. Et je crois que c'est ça, la réalisation, c'est que les sites sont en train, c'est même pas vraiment de se rendre compte, sont en train de décider qu'ils ne sont pas obligés de donner leur place à tous les types de contenus, y compris ce type de contenu, soit limite, soit carrément haineux. Et c'est un gros changement, quoi.
Ça me fait penser à une conversation qu'on avait il y a de ça quelques épisodes, peut-être il y a 3 ou 4 ans, où on parlait de Google qui avait approuvé une application pour. C'était aux Émirats Arabes Unis ou un truc comme ça, enfin, ou en Arabie Saoudite plutôt, pour traquer sa femme avec l'appli et tout. Et moi, j'étais très énervé parce que je disais que les sociétés, en tout cas Internet, donc Google en tête, hein, bah justement, se positionnaient pas en termes de valeur, d'éthique sur ce genre de choses.
Ouais, mais ouais.
Et là, ils sont en train de le faire. Alors, pas Google. Google, pour l'instant, je les ai pas vus bouger une oreille là-dessus.
Bah, mais, YouTube. YouTube.
YouTube,
ouais, et c'était un petit peu différent, cette application. Je suis d'accord qu'elle est complètement sujette à débat, mais c'était une application officielle du gouvernement en question. Et si on part sur est-ce qu'on doit contrôler... Oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'était une application du gouvernement qui est dans un contexte qui est très différent. Si tu veux faire du business dans le pays, tu dois respecter les règles du pays. Mais bon, sans repartir dans ce débat, je comprends l'analogie que tu fais. Cédric, Jérôme, vous avez d'autres contre-arguments ou...
Je suis peut-être un petit peu plus cynique, défaitiste. Ou... Je ne sais pas si on assiste vraiment à un sursaut moral ou à des règles d'éthique. Moi, j'y vois plutôt une espèce de censure imposée par les annonceurs. C'est-à-dire, en gros, tout ce climat ambiant. C'est-à-dire, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Parce que, bon, il y avait un laisser-faire. Tant que ça ne faisait pas des bad buzz, et puis
c'était
tout d'un coup...
C'était parce qu'on avait cette idée que le net est un espace de liberté où on peut tout dire, et les choses inacceptables, ben, il vaut mieux les voir que pas les voir. Moi, je pense vraiment que c'est ça.
Oui, ce que je suis en train surtout de dire, c'est qu'on a vu des réactions, surtout quand les annonceurs ont commencé à taper dans le portefeuille de ces boîtes, de ces réseaux sociaux, de ces plateformes d'hébergement de vidéos. Quand les annonceurs ont commencé à dire... C'est malaisant, l'ambiance, c'est quoi ces histoires, racisme, machin, etc. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que
ça, que tu te trompes. Hein. Je te laisse finir, mais je crois que tu as mal interprété certains des événements et l'ordre dans lequel ils sont passés. Parce que les réseaux sociaux ont réagi assez vite en raison de mouvements de la société et pas des annonceurs. Et les annonceurs ont réagi à l'absence de réaction de Facebook, qui est aujourd'hui le réseau isolé qui ne veut pas justement prendre des actions sur le président des États-Unis, mais de manière générale sur l'ensemble du contenu de sa plateforme. Et c'est face à ça que les annonceurs ont réagi. Essaye de mettre de la pression sur Facebook, qui d'ailleurs répond rien à foutre. Nous, on ne prend pas nos décisions en fonction de la pression des revenus, ce qui est en soi est louable. Mais en plus de ça, Mark Zuckerberg a 100% du pouvoir de décision sur Facebook. Et si lui, il n'est pas convaincu, il n'est pas obligé de changer quoi que ce soit, parce que les 100 plus gros annonceurs de Facebook, ils représentent 6% de leurs revenus. Facebook, c'est des dizaines de milliers de tout petits annonceurs qui font ces revenus. Donc, les annonceurs n'ont pas mis de pression sur les autres réseaux sociaux. Ils ont pris cette décision.
Si, il y a des pressions depuis 2-3 ans.
Cet événement. Tu parles d'une histoire qui a eu lieu sur YouTube il y a genre 2 ou 3 ans et qui était complètement terminée depuis. C'est autre chose.
Laisse parler Jérôme.
Je parle d'un phénomène global, effectivement, qui part depuis 2-3 ans. Je ne parle pas spécifiquement de ce qui est arrivé à Facebook récemment avec les annonceurs, ni même de YouTube il y a 2-3 ans. Ce que je suis juste en train de dire, c'est d'un point de vue global. Ce mouvement des réseaux sociaux, et c'est juste ce point-là que j'abordais. Je suis pas certain, mais c'est peut-être, je suis cynique et défaitiste, que ça parte d'une auto-introspection des réseaux sociaux, de leur rôle social et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la moralité, etc.
Ouais, c'est un peu de chance.
Je suis un petit peu cynique, c'est des boîtes privées, aujourd'hui, qui doivent attirer un maximum d'annonceurs. Et quelque part, c'est pas le mal absolu, ce que je suis en train de dire. C'est juste que les réseaux sociaux sont en train de faire la mutation que la télévision a fait dans les années 50. Je parle de la télévision grand public, etc. Ce qui drive ces entreprises, c'est quand même les revenus publicitaires. Et quelque part, il y a un moment, il faut revenir à ça, à la base. Donc, là où je suis complètement d'accord avec Corben, c'est que Est-ce qu'on n'est pas sous ce couvert de on moralise les réseaux, tout ne peut pas se dire, mais on garde quand même la liberté d'expression. On est en train de mettre dans des recoins du web des choses pourrissantes et qui peuvent du coup, qui vont rester entre elles en boucle. On va même plus voir
mais
ce qui s'y passe.
Mais elles le sont déjà.
Elles sont déjà, ouais.
Ouais, elles le sont déjà. Mais... Sauf qu'en plus, c'est en public et elles gagnent de l'attraction et de la publicité. C'est déjà
elles
le cas.
Elles auront du boost par les réseaux sociaux parce que les mecs vont mettre leurs articles en avant. Enfin, ça va continuer à être en symbiose avec les réseaux sociaux.
Je vois pas en quoi le fait qu'ils se retranchent sur des petits sites à eux ou même des grands sites où ils sont en symbiose avec eux-mêmes va leur donner plus de visibilité ou plus d'influence. Que la même situation avec en plus une grosse visibilité sur les plus grosses plateformes du monde. Je comprends
le
pas.
Le seul truc que ça va changer.
Ah, peut-être couper. Bah, non, vas-y, je t'écoute.
Le seul truc que ça va changer, c'est qu'il va plus y avoir un espèce de choc. Enfin, il va y avoir moins de choc de civilisation, j'ai envie de dire. Tu vois, moins de gens qui se fritent toute la journée sur des choses.
Ouais, mais il y a un réel danger justement à ce que tout le monde reste dans sa bulle. Mais bon.
Oui. Vous savez quoi ? On a essayé pendant 10 ans de confronter ces choses et d'essayer de faire en sorte que, justement, en voyant ces idées, on puisse les combattre. Parce qu'à aucun moment, on s'est dit « on va voir ces idées et ça va être cool ». L'idée, c'était « on va les voir et on va pouvoir les combattre ». Et on a vu depuis 10 ans qu'au contraire de pouvoir les combattre, ça les diffuse. Donc, à mon avis, il est temps d'essayer autre chose. Et là où je te rejoins d'une certaine manière, Jérôme, c'est que ce n'est pas pour moi du tout les annonceurs qui ont initié ce mouvement précis hein, depuis deux semaines. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas les annonceurs qui les ont initiés. C'est un mouvement de société générale où la société, si on peut la résumer à une voix, a dit « maintenant, ça suffit ». Et évidemment, oui. Ils ne l'ont pas fait pour dire « ah, maintenant, on va être super gentil ». Mais je crois qu'il y a quand même des questions morales. Tu vois, oui, c'est des grandes sociétés, mais les gens qui dirigent ces sociétés se posent ces questions aussi. Et oui, ils prennent le vent du moment et de ce que disent les gens. Et c'est peut-être en se rendant compte que, bon, maintenant, le public est prêt. Et nous aussi, on pense que cette... expérience n'a pas réussi aussi bien qu'on le voudrait, eh ben le public nous pousse à le faire, donc on va le faire. Mais pour moi, il y a un vrai mouvement public plutôt qu'un mouvement des sociétés des annonceurs incident spécifique de cette semaine.
Quand tu vois que même des annonceurs... Rappelez-vous l'histoire du slip français, de tout ce genre de choses, c'est-à-dire que même des annonceurs... qui eux-mêmes ont à leur tête des gens qui ont des opinions qui vont à l'encontre de ce qui est acceptable, enfin voilà, si on peut le définir comme ça. Mais après, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais même ces gens-là qui, jusqu'à présent, se disaient « c'est pas grave, on s'en fiche », ils se rendent compte qu'il y a quand même une vraie pression du portefeuille, qu'on le veuille ou non. Il y a une vraie pression du portefeuille et continuer à annoncer sur des gens avec des discours complètement limites, c'est aussi mauvais pour l'image et pour leur... parce que la majorité des consommateurs sont des gens qui n'ont pas forcément ces idées-là, en fait. Heureusement, ça reste une minorité de gens. Donc jusqu'à présent, on s'en fichait un peu. Maintenant, on se rend compte que finalement, c'est presque dans l'air du temps. Enfin, attention, je pèse mes mots. Hein.
Oui. Non, mais si.
C'est dans l'air du temps, les gens. Enfin, la bien-pensance, puisque c'est comme ça qu'elle est combattue par Trump et les autres, en disant voilà, la bien-pensance veut nous faire taire. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est. On est humain, on se comporte comme des humains, en fait. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée derrière ça. On se comporte avec humanité. Quand je dis se comporte comme des humains, c'est on se comporte avec humanité. Et certains discours de haine ne sont pas acceptables, surtout sur des arguments complètement fallacieux, du genre ta religion, ta couleur de peau, ta sexualité, en fait. C'est des choses qui aujourd'hui sont acquises normalement, bien que je suis sûr que des gens de la communauté LGBT ou des gens racistes, comme on dit, ne te dirait qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas, et ça je veux bien tout à fait l'entendre, hein, c'est-à-dire aujourd'hui déclarer son homosexualité c'est encore plus compliqué que déclarer ses impôts finalement, Sur un CV, mettre ta photo et à partir du moment où tu es une personne de couleur, voir tes chances d'être embauché annihilées ou complètement diminuées, c'est une réalité
que,
en fait.
Pour résumer ce que tu dis là, évidemment que ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux, c'est pas ok maintenant le racisme et le sexisme, c'est bon, on a réglé le problème, tu vois. Évidemment, voilà, c'est pas ça que. Bien sûr, bien sûr.
Non, mais effectivement, faire comprendre aux gens. Pour moi, en fait, il y a eu une vraie libération, je n'arrête pas de le dire, mais il y a une vraie libération de la parole au moment du mariage gay en France, en tout cas. L'autorisation du mariage homosexuel, les débats qui ont eu lieu, ont entièrement libéré la parole, et où être homophobe ouvertement à la télévision n'était pas un problème, sous prétexte que ben, on écoute les opinions de tout le monde et tout ça. La parole s'est entièrement libérée sur cette chose-là, ouais. Mais elle s'est aussi libérée, du coup, ben, sur tout ce qui en découlait. C'est-à-dire qu'on pouvait parler ouvertement du racisme ou presque sans que ça gêne personne, en fait. Et du coup, c'est devenu presque un discours de fond et un acquis que, bah ouais, il y a des gens racistes et qui l'assument, mais alors c'est quoi ? Il y a des gens qui sont contre le mariage homosexuel, bah alors c'est quoi le problème, en fait ? Vous voyez ? On a banalisé, en fait, ce truc-là. Sauf qu'en fait, ce sont des délits. Et on oublie qu'à un moment donné, ce sont des délits, en fait. On n'a pas le droit d'être homosexuel, c'est interdit par la loi d'avoir
un discours
de haine envers, de faire la discrimination parce que les gens sont homosexuels. On n'a pas le droit, en fait. Donc à partir du moment où c'est puni par la loi, le racisme et l'homophobie, eh ben ça devrait être interdit de citer sur Internet ou même dans les grands médias nationaux, en fait. Point. Alors je sais que c'est un peu simpliste et je prends un énorme raccourci.
Tu simplifies un petit peu les choses. Il y a le fond
bien sûr,
qui est bien là.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça justifie entièrement le fait qu'aujourd'hui on se dise ok, quand Trump il dit les Mexicains nous envoient tout que enfin les Mexicains qui traversent la frontière sont tous des violeurs, eh ben ouais ok, on doit pas dire ce genre de choses, en fait c'est pas acceptable comme discours.
Et je crois
c'est un discours de haine raciste, en fait, donc c'est puni normalement par la loi, en fait.
Donc les choses sont un petit peu différentes aux États-Unis, mais d'une manière générale.
Je suis d'accord,
parce
que je veux dire que Twitch bannisse ce type de discours, ça me gêne pas, en fait. Que même Twitter, même Facebook, et je vais pas crier à la censure, parce que pour moi ça c'est pas avoir des opinions de dire ce genre de choses. C'est pas un discours défendable.
Il y a en fait toute une série, et je suis sûr que dans les commentaires et dans vos têtes, chers auditeurs, vous dites ah oui, ok, bon, sur ça c'est facile, mais après il y a plein de choses limites où on va pas pouvoir exprimer certaines opinions, et s'ils ont le droit de supprimer certaines choses, est-ce que ça veut pas dire qu'ils vont prendre le droit de supprimer d'autres choses qui les arrangent ? Évidemment que toutes ces questions se posent.
Écoutez, la Chine le fait bien.
Et tout se passe bien.
Tiananmen, j'ai aucun problème.
Je crois que, évidemment, toutes ces questions se posent, et c'est parce qu'elles se posent que les choses ont duré aussi longtemps et que c'était tellement difficile. Et évidemment, il y a un mouvement important maintenant. Je suis sûr qu'il va aller, tu vois, ça va aller par vagues et ça va être plus ou moins fort, et peut-être qu'on va trouver un équilibre, ou j'en sais rien. Et que là, ça ne veut pas dire que tout à coup, encore une fois, le racisme et le sexisme sont des problèmes résolus. Mais je crois qu'il y a un changement, encore une fois, et on va conclure bientôt, mais... C'est un changement de manière de penser à ce problème qui est ce que je voudrais que vous reteniez de tout ce long segment. Je crois qu'il y a sur le net un changement d'approche et de manière de penser à ces problèmes. Et ça, c'était inimaginable il y a un ou deux ans. On n'aurait pas pu avoir les mêmes discours.
Corbett, sur les plateformes, effectivement, Jérôme parlait de la publicité, etc. Mais il y a peut-être aussi un problème d'image, en fait, tout simplement. Parce que moi, partout où je vais, Twitter est qualifié de réseau social le plus toxique. Et ce n'était pas le cas avant. Et moi, je ne le ressens pas forcément comme ça. Mais c'est quand même, il y a quand même des gens qui se suicident à cause du harcèlement ou ce genre de choses. Et encore là, dernièrement. Et il y a un vrai problème aussi avec ça. Et c'est vrai que pour de plus en plus de personnes, Twitter, c'est vraiment un monde de violence et c'est dangereux, quoi, physiquement dangereux, quoi. Donc je pense qu'ils ont un problème d'image aussi, quelque part, à régler.
Tout à fait. Non, mais je crois que c'est lié aussi. Oui, c'est pas uniquement pour être super gentil, je suis d'accord. Et on rejoint là ce que disait Jérôme, c'est pas juste pour être gentil. Il y a une question d'image et, au final, de survivabilité et de commercialité.
Oui, voilà. Tout à fait. Et un peu de responsabilité. Mine de rien.
C'est-à-dire moi, c'est oui, je pense que ça joue aussi, oui.
Voilà, il y a une partie de... Enfin, demain... Enfin, moi, je suis Twitter. Me dire que Trump a été réélu parce que des gens ont diffusé de la fake news sur Twitter, j'ai une part de responsabilité, en fait, d'en avoir rien fait, tu vois.
Ça, c'est un discours.
Ça serait un excellent épisode d'un Black Mirror ou autre série où on verrait un fondateur de réseau social il y a 10-15 ans et pendant qu'il fait sa présentation avec ses slides We're gonna change the world.
Ouais, on voit bien.
Tu lui envoies des flashs de 2020. ça serait intéressant.
Bah, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de choses super bien qui ont pu arriver grâce à tout ça.
Quelque part, je pense que c'est l'enjeu du futur. Est-ce qu'on va arriver à garder les bonnes choses des réseaux sociaux en se débarrassant de toute la merde que ça nous a amené, quoi?
C'est une grande question et il y a une idée qui pourrait aider, une idée de Nick Punt qui a suggéré sur un article hyper intéressant un label qu'on appliquerait nous-mêmes à un tweet. Il parle des tweets spécifiquement, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. Un label « I was wrong », donc « j'avais tort ». Ça serait un label qui s'appliquerait à un tweet sans avoir besoin de l'éditer. On a des grands débats sur la possibilité d'éditer un tweet ou pas. Tu appliques toi-même, tu décides d'appliquer « I was wrong »,« j'avais tort » ou « je me suis trompé » sur un tweet. Et ça peut désescaladifier tout un tas d'effets négatifs importants qu'on peut avoir sur Twitter, parce que les tweets continuent à se diffuser, même quand on s'est rendu compte qu'on s'était trompé, on met une réponse, personne la lit, etc. Je trouve que c'est une idée hyper intéressante. L'article est très bien détaillé et je pense que ça pourrait énormément aider, juste ce petit truc, ça pourrait aider énormément à assainir un tout petit peu l'ambiance et la toxicité. Bien sûr, ça ne fait pas tout, mais un petit peu l'ambiance du réseau Twitter, quoi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Intérêt à bien sécuriser ton compte, hein. Le mec qui prend le contrôle de I was wrong et qui peut l'appliquer à tout le monde, là, il est mal.
Là où c'est intéressant, c'est que tu es le seul à pouvoir appliquer le I was wrong sur ton compte à toi. Personne d'autre peut l'appliquer. Donc, bon. Bref, j'avais trouvé ça intéressant. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Ah oui, alors d'abord, à propos de I was wrong, un truc édifiant. Vous savez, depuis quelques semaines, j'ai inclus dans le flux de l'émission, du podcast, des petits montages de rattrapage que je publie le dimanche, qu'on publie avec Fanny, le dimanche, sur le flux du podcast. Et en fait, c'est des épisodes remontés à 10 minutes, donc très raccourcis, qui sont essentiellement les informations, avec évidemment moins d'analyse, de l'épisode publié le mardi, hebdomadaire. Et mon idée était, ça va aider les gens qui n'ont pas le temps d'écouter un épisode à avoir un épisode beaucoup plus court pour avoir les infos essentielles. Je me suis dit, ouais, super, c'est une super idée, ça va rendre un super service aux auditeurs. En plus, ça rajoute un petit peu de matériel pour la pub, donc je peux avoir un petit peu plus de revenus de pub. C'est gagnant, 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 ça va plaire à tout le monde. Les retours n'ont pas été exactement positifs, il y avait des gens un petit peu partagés, mais j'ai décidé de continuer sur un mois pour voir si les gens s'habituaient. Et là, j'ai relancé un sondage sur le site, sur frenchspin.fr, le lien sera dans les notes de l'émission, pour savoir ce que les gens en pensaient au bout d'un petit mois et savoir si les gens s'étaient habitués à l'idée et que ça pouvait leur plaire. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas tout à fait le cas. En ce moment, j'ai juste publié le sondage sur Twitter, enfin mis le lien sur Twitter, il y a environ la moitié des gens, il y a trois options pour répondre, la moitié des gens disent que carrément ça encombre le flux et ils trouvent ça gênant. Donc je me disais, bon, s'il y a genre 20% des gens qui trouvent ça gênant, bah peut-être qu'on retirera l'épisode parce que je veux surtout pas gêner les auditeurs, évidemment, votre confort est la valeur la plus importante. Vous voyez, moi je suis influencé par l'expérience utilisateur. Et là, on est à 50% des gens. C'est plus que quand j'avais fait le sondage, après une semaine, après un seul épisode, quand j'avais fait le sondage sur Twitter, donc je crois que je m'applique moi-même le label « I was wrong ». Je vais quand même laisser le sondage quelques jours. On va voir si les gens qui écoutent maintenant cet épisode, qui ont le temps d'écouter l'épisode, vont dire « oui, oui, c'est super, laisse-le sur le flux et changer complètement le sondage ». Mais je pense que c'est peu probable. Donc malheureusement, pour moi, je suis obligé d'admettre que cette idée n'était peut-être pas aussi bonne que je l'espérais. Et du coup, bah, on va voir ce qu'on fait de ce format. Peut-être qu'on va le garder, le mettre sur un autre flux ou le réimaginer un petit peu différemment sur un autre flux. Je sais pas, on va voir, on va y réfléchir avec Fanny. Mais clairement, ma super idée qui était super pour tout le monde, j'ai l'impression que
c'est
pas tout à fait le cas. Bien sûr, Corben.
C'est peut-être une super idée. Les gens n'aiment pas trop quand il y a des trucs qui changent. Donc forcément, ils vont voter négatif. Mais oui. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est juste tu testes pendant une période donnée. Tant pis si ça emmerde du monde. Et ensuite, tu vois juste l'audience. Tu vois les chiffres à la fin. Ça, tu vois. Et tu te contentes pas d'un sondage Twitter. Parce que moi, toutes les fois où j'ai fait des sondages Twitter sur des trucs, je vais faire ci, je vais faire ça. Au final, je l'ai fait hein, parce que j'avais envie de le faire. Mais et puis finalement, ça plaît, les gens s'habituent et machin, et ça roule. Voilà, faut pas écouter les gens.
Là où Manu, déjà, il y a une personne qui répond à un sondage, c'est déjà un profil type.
Ouais.
Et généralement, les gens qui aiment pas les choses répondent au sondage.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est ça aussi que tu dois t'appliquer. Mais c'est très bien hein, en même temps hein, les sondages, mais c'est ça doit peut-être pas être ton unique facteur de décision. Moi, qui teste, moi aussi, hein, je teste diverses choses, où est-ce que je mets mon live, machin et tout. Et je fais un mélange entre l'avis des gens. J'ai jamais fait de sondage, mais je devrais. Mais surtout, je regarde les audiences, parce que finalement, il y a que ça. Et il faut jamais oublier ta grande majorité silencieuse qui ne répondra jamais à un sondage, qui mettra jamais un thumbs up, ou qui laissera jamais un commentaire, quoi.
Tu sais, le jour où tu te plantes, Patrick, ta boîte mail, elle va être rempli de gens qui vont te prendre le chou. Si c'est pas le cas, c'est vrai. C'est le jour où tu fais vraiment un truc qui fait chier vraiment le monde, tu vas recevoir des dizaines de messages par jour de gens qui disent mais arrête, c'est horrible. Là, si c'est pas le cas, c'est qu'en fait, soit au mieux
c'est
les
qu'en
gens
fait, tout le monde adore.
Au pire, les gens s'en foutent, ou soit ça leur plaît. Mais voilà.
Bon, écoutez, je vais continuer à y réfléchir. Je prends également.
AB testing.
Tu testes et tu regardes
l'audience. C'est difficile sur les podcasts de faire du AB testing. Hein,
ouais, je sais.
C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais bon.
Pourquoi pas le mettre sur un flux secondaire et tu vois si des gens s'abonnent à ce flux secondaire. Tu vois,
Bien sûr, c'est l'une des idées qui est envisagée, tout à fait.
Le garder sur les deux flux, mais voir si un flux secondaire, ça plaît plus aux gens. Mmh. Et du coup, ils s'abonnent. Ça peut être une forme d'AB testing.
Possiblement. Mais en tout cas, si vous avez un avis sur la chose et si vous aimez bien avoir ce format dans le flux, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, le format pourrait exister ailleurs, mais ensuite, ça veut dire que les gens doivent aller s'abonner à l'autre flux. C'est une démarche différente. C'est pas tout à fait la même approche. Ça fait sans doute moins de revenus publicitaires aussi. Donc, le travail, parce que c'est quand même un certain niveau de travail pour sortir ces épisodes, est-ce que ça vaut quand même le coup? Je pensais que ça plairait plus. Mais bon, bref, si vous appréciez la chose, il est encore temps d'aller voter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et surtout, si vous appréciez l'émission, vous pouvez devenir patriote, vous pouvez soutenir l'émission financièrement, une émission qui vous écoute et où la question ne se pose pas parce que vous n'avez pas de pub et vous écoutez les émissions en entier si vous le souhaitez. C'est sur patreon.com/rdvtech. Ça coûte pas grand-chose et ça aide énormément. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. patreon.com/rdvtech. Si vous écoutez l'émission depuis un moment et que vous aimez bien, peut-être que vous pourriez penser à la soutenir. Quand vous rentrez chez vous, cling ! Ah, les clés dans le bol, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à quoi ? Patrick ! Voilà, cling, Patrick. Bon, un truc qui risque de faire parler beaucoup de gens également et inciter les mécontents à s'exprimer, c'est cette rumeur qu'on a depuis quelques temps, et en particulier de Min-Chi Kuo, analyste Apple hyper bien informé, qui nous dit que pour la prochaine version de l'iPhone, il est fort probable qu'Apple n'inclut ni le kit main libre, enfin les écouteurs, ni le chargeur dans la boîte de l'iPhone 12. Alors, en France, c'est un petit peu différent parce qu'il y a certains éléments qu'on est obligé d'inclure légalement, mais ça pose des questions hyper intéressantes.
Le kit piéton, par exemple.
Exactement. Mais ça pose des questions hyper intéressantes parce que on a tous, enfin la plupart des gens ont 12 chargeurs iPhone et 12 écouteurs qui traînent dans des boîtes, c'est plus écologique, mais on se doute bien en même temps qu'Apple ne va pas réduire le prix de l'appareil en vous en offrant moins, donc il y a des gens qui vont être énervés de voir que voilà, Apple nous entube encore. En même temps, je pense qu'ils font le calcul chez Apple, personne au monde qui se dit, ou à part quelques exceptions, qui se dit « je voudrais bien un iPhone 12 ». Quoi ? Il n'y a pas de chargeur, je vais devoir payer 20 euros ou 30 euros de plus pour avoir un chargeur, ou 50 euros peut-être, j'en sais rien, mais du coup, je ne vais pas acheter mon iPhone. Si tu veux un iPhone, je pense qu'ils ont ce pouvoir de vous dire, bah voilà, c'est pas c'est quelques dizaines d'euros que ça va vous faire changer votre décision, ou pas suffisamment pour justifier de ne pas prendre cette décision de leur côté. Mais c'est surtout quelque chose de très écologique. Parce qu'effectivement, on a tous ces éléments qui traînent chez nous, pas la peine d'en racheter encore un. Et puis, du coup, Apple, comme ça, peut vous vendre des AirPods si vous n'avez pas encore. Jérôme, est-ce que toi qui es fan d'Apple, qu'est-ce que tu penses de cette possible décision ?
Bah, je pense qu'après, toute la question, c'est comment Apple va le présenter. Parce que je ne suis pas aussi catégorique que toi. Apple a une politique tarifaire assez agressive depuis 2 ans. Ils nous ont surpris avec l'iPhone SE et les iPads qui sont à des prix très bas sur le rapport puissance. Ce qui pourrait être malin de la part d'Apple, c'est qu'ils fassent un peu comme ils font avec l'Apple Watch. L'Apple Watch, en gros, tu achètes un bundle entre le corps de l'Apple Watch et le bracelet que tu as choisi. Ils pourraient faire la même chose en revoyant complètement le packaging de l'iPhone, c'est-à-dire que tu as l'iPhone, c'est ton élément A, et sur le site, au moment de la commande, tu choisis si tu veux pour 10 euros de plus, ils ne feront pas la connerie de mettre le chargeur à 30 euros. Ça, c'est des fantasmes d'anti-Apple.
On a des ouais. rumeurs sur un chargeur 20 watts qui serait le seul désormais disponible, donc pour charger plus vite, qui, à mon avis, pourrait coûter un peu plus. Mais...
Alors, peut-être, oui, peut-être de 20 watts, mais peut-être qu'ils garderont un 5 watts minimaliste à 5 euros. Et ce que je veux dire, c'est que tout ça te fera le packaging, mais ça sera un peu au choix. Tu veux les écouteurs, tu veux le truc, tu peux. Mais sinon, tu peux aussi avoir ton iPhone tout seul. Tu vois, présenté comme ça, c'est déjà beaucoup moins hostile parce que je ne t'ai pas enlevé, je te permets de rajouter.
Ah, c'est le prix. Est-ce que le prix est le même que le modèle de l'année d'avant avec les écouteurs ? C'est la question.
Regarde, si par exemple, on te dit l'iPhone, il est à, je sais pas, il est à 600 euros, mais si tu enlèves le chargeur à le casque, ça te fera moins 15 euros.
Bah, ça dépend.
C'est une manière de le présenter.
Oui, mais est-ce que l'année dernière, il était à 585 avec le chargeur et le casque ?
Tu ne peux pas comparer, ce ne sont pas les mêmes modèles, Patrick.
Ouais. Oui, oui, bien
mais
sûr.
Mais... En fait,
mais sur l'autre, il y a 10 euros de plus, 10 euros de moins.
Je peux t'assurer que l'Internet va comparer. Ça,
oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est rigolo, ce que je veux dire... mais après, c'est des débats de technophiles. Pour le grand public, tout est une question de présentation. Si effectivement, nous, les technophiles, on est en train de dire oh, « mais scandale, ils enlèvent des choses, ils vont garder le même prix ». Déjà, on a fait une interprétation. Mais tu peux très, de manière très habile marketing, dire qu'au contraire, on va t'enlever du prix de l'iPhone si tu n'as pas besoin du chargeur ou du casque. Donc, on verra bien comment Apple le présente. D'accord. Mais ils ont déjà montré qu'en packaging avec l'Apple Watch, ils sont capables de faire un packaging où tu choisis des options. En fait.
Ouais. Alors, à propos de packaging, encore plus d'écologie, le fait de réduire la taille de la boîte de l'iPhone, ça fait moins de transport et donc moins de consommation.
Cédric, dans le début des années 2000, il y a une autre marque qui avait décidé d'arrêter de vendre les chargeurs avec ses téléphones. C'était Nokia, pour des raisons environnementales, puisqu'en fait, le souci qu'il y avait, c'est que tout le monde gardait ses vieux téléphones. On les revendait très peu. Hein. D'un autre côté, les vieux Nokia 3310, on ne les revendait pas spécialement. Mais les générations d'après avaient toujours le même chargeur. On a gardé le même chargeur pendant des années, des années, des années. Et un jour, Nokia a dit, pour des raisons environnementales, parce que la plupart des chargeurs finissent du coup à la poubelle ou ne sont plus utilisés et tout ça, on ne fournit plus de chargeur. Si vous en voulez un, bah, vous pouvez l'acheter à côté. Il est vendu 15 euros. C'est tout à fait possible. Mais de base, vous ne les aurez plus dans les boîtes. Et ils ont fait ça pendant des années et des années sur pas mal de modèles de la gamme. Et à l'époque, personne s'en était offusqué. Bah, personne n'avait rien dit parce que le motif était environnemental, parce qu'on commençait déjà à parler des téléphones qui dormaient dans les tiroirs, des déchets que cela provoquait, et on parlait justement des chargeurs, le fait qu'en fait on accumulait, tout le monde avait à la maison 5 ou 6 chargeurs Nokia. Ou Nokia ou autre, ça dépendait des marques que vous souteniez, mais c'était Nokia qui était leader du marché à l'époque. Donc tout le monde avait plein de chargeurs Nokia qui traînaient dans des tiroirs et on ne savait pas quoi en faire. Ils finissaient souvent à la poubelle et c'était dommage. Donc vous pouviez réutiliser votre ancien chargeur qui fonctionnait très bien avec les nouveaux modèles parce qu'il n'y avait pas ces histoires de plus 20 watts, de 15 watts, de 10 watts, de machin. Mais écoute, il y a une marque qui l'a déjà fait.
Ouais, on verra si on pourra invoquer Nokia au moment de... Peut-être que même Apple dira,
tout le monde a un chargeur de téléphone à la maison. Si vous voulez une version rapide, ok, on la vend. Sinon, vous utilisez le chargeur de la génération d'avant. Allez, bisous. Mais c'est pour raisons environnementales. Le packaging est plus petit. On économise 14 milliards de tonnes de CO2. C'est génial. Faites un geste pour l'environnement. Bisous.
Moi, je suis complètement d'accord que c'est une bonne chose et que c'est encore un truc gagnant. Parce que sincèrement... qui, au monde aujourd'hui, achète un smartphone et n'a pas déjà un chargeur de smartphone ? Parce qu'accessoirement, vous pouvez utiliser votre chargeur d'Android pour charger votre iPhone, à partir du moment où vous avez un câble.
Exactement, moi j'ai un chargeur Anker multi-USB sur lequel je branche plein de trucs, tu vois.
Alors après, je pense que c'est une bonne idée aussi, objectivement. En plus, ça va permettre à Apple de proposer soit des chargeurs classiques, soit leur chargeur, vous savez, sans fil, là, enfin le truc par induction. Là.
Donc ça, s'il arrive un jour.
Ouais, ça c'est cool, mais mais aussi, je veux dire, moi si j'ai un parallèle à faire, c'est par exemple sur la suppression ou la disparition de certains ports sur les MacBook par exemple. Les technophiles s'énervent, mais les gens continuent à acheter des Mac, et même s'il y a qu'un port USB type C sur le MacBook Air, les gens continuent à acheter un MacBook Air et prennent des adaptateurs, achètent à côté que ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Apple l'a déjà fait, en fait, ça. Alors, pas faire disparaître le chargeur, mais faire disparaître des ports entiers sur des MacBooks. Ils l'ont fait, ils en ont rien à foutre. Donc, moi, ça me choque pas et je pense qu'ils le feront et c'est bien.
Ça n'a jamais été la politique d'Apple d'écouter ce que les technophiles pensent d'eux.
Ils ne font pas des sondages sur Twitter pour donner avis. Non. En disant, putain.
Ou tech, et ils regardent pas les vidéos, ils en ont, mais à rien carré. Apple fait du grand public et ça leur réussit plutôt bien, malgré l'énervement que ça peut créer chez certains, mais ça leur réussit plutôt bien.
Je pense qu'on peut dire que ça leur réussit bien. Écoutez, Google Glass, c'est les lunettes connectées de Google qui ne leur ont pas vraiment réussi, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas réussir un jour. On entend énormément de rumeurs sur la possibilité de lunettes connectées d'Apple dans les 2 à 3 prochaines années. Google a racheté une société qui fait des lunettes connectées qui s'appelle North. Les lunettes sont les Focals et donc on imagine qu'ils sont en train de se réintéresser à cette technologie, c'est pas mal. Ils ont également annoncé un programme de licence avec des éditeurs de presse en ligne, et ça c'est assez intéressant, ça sera sur un nouveau produit, pas sur Google News, mais qui fait partie des initiatives de Google News, enfin de la Google News Initiative, où ils rémunéreraient les éditeurs de presse, ce qui est évidemment notable parce que ça fait des années que les éditeurs de presse réclament de l'argent de Google, notamment pour leur indexation. Donc on va voir ce que ça va donner à ce niveau. Et puis,
les blogueurs n'ont pas de sous.
Je sais que tu veux passer vite parce qu'on est très long. Mais juste pour info, la société qu'ils ont rachetée, c'est pas du tout de la réalité augmentée. Tout ça, c'est juste d'afficher des notifications sur des verres, en fait. C'est tout pas. Voilà. Faut pas confondre ça avec ce que fait HoloLens ou voilà. C'est pas de la réalité augmentée, en fait.
Non, c'est beaucoup plus minimaliste. J'allais te donner la parole, justement, Cédric, parce que Bouygues a racheté une flopée de MVNO. MVNO, donc les opérateurs mobiles virtuels du CIC, de Énergie, de Auchan, de Cdiscount, du Crédit Mutuel.
C'est le même opérateur.
Ouais, c'est les ils sont tous chez Bouygues, tu veux dire ?
Non, en fait, c'est le même...
Au-dessus, qui propose ses services à toutes les marques différentes.
Exactement,
en fait, c'est,
même, c'est Euro Information Télécom, qui est en gros une boîte qui propose des MVNO à des marques. C'est-à-dire que tu aurais pu très bien avoir le Rendez-vous Tech Télécom, et c'est Euro Information Télécom qui s'occupait de toute la facturation, machin et tout ça, mais c'est juste ton logo dans un coin, en fait.
Est-ce que c'est racheter des clients, en fait, c'est ça ?
Ben voilà, en fait, les clients vont migrer parce qu'en fait, ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas d'infra-réseau, ils n'ont rien. Donc, ils ont racheté des clients, en fait, essentiellement ça.
Ouais, bah, ouais. Intéressant à noter quand même, parce que c'est vrai que sur ce point, bah, c'est le gros combat dans ce marché des télécoms. Ah oui,
voilà, et là, c'est le plus gros, alors je vais dire MVNO, mais le plus gros acteur dans ce secteur-là, qui donc dispose de toutes ces marques-là, hein, Énergie Mobile, Cdiscount, ouais. Et tout ça. Enfin,
ouais. Et du coup, ils utilisaient le réseau de Bouygues déjà, ou est-ce qu'ils vont
migrer les gens? Non, alors, il faudrait voir, parce que je sais plus exactement, parce qu'à un moment, ils étaient passés comme MVNO multi-opérateur, c'est-à-dire que tu pouvais passer sur Orange et SFR, par exemple, en fonction des cartes SIM que tu attribuais, mais en gros, ils achetaient des numéros chez Orange, des numéros chez SFR, et bon, pour les gens, ça changeait rien, hein. C'était Auchan Télécom ou machin. Mais pas forcément Bouygues. Hein. Donc, dans les faits, c'est, enfin, pour eux, c'est juste
à voir s'ils vont repasser tout le monde chez Bouygues. Ça sera intéressant à suivre.
Et en fait, le truc, c'est qu'il y a de moins en moins de clients pour les MVNO, clairement. Hein. Parce que forcément, hein, parce que quand tu vois des BNU, des Red by SFR et tout ça qui se placent pile en face des offres un peu canon que pouvaient proposer les MVNO, il ne reste plus grand monde, en fait. Aujourd'hui, il va rester la Poste Mobile, Pritel, qui reste des MVNO. Il n'y en a plus beaucoup, en fait, honnêtement.
Ouais, c'est un marché qui s'est un peu asséché, quoi.
Ouais, qui est petit à petit. Donc, tu as toujours les Énergie Mobile, Cdiscount, Leclerc, tu vois, ce genre de trucs.
Ouais.
Qui, eux, bon, Leclerc, c'est un peu différent encore, mais ils passent pas par EI Télécom, mais... Mais bon, c'est essentiellement la base de données clients, des clients qui vont du coup migrer sans doute sur une offre BNU ou sur une offre Bouygues, enfin voilà quoi.
Et ben à propos de télécom, on est en train de se rendre compte que l'influence du combat entre les États-Unis et la Chine et Huawei, banni par les États-Unis, est en train d'avoir des conséquences même dans les pays qui n'étaient pas forcément contre l'idée d'utiliser du matériel Huawei dans leur réseau 5G. Et ben la France et l'Angleterre ont décidé de privilégier plutôt des équipements non Huawei par peur, en fait, de la possibilité des capacités de Huawei à maintenir les réseaux, étant donné qu'ils sont coupés de plus en plus de sociétés américaines dont ils ont besoin pour vraiment opérer. Donc il y a une crainte qui pousse même les pays qui n'étaient pas complètement décidés sur ce point à choisir la voie de la prudence, on va dire, donc des vraies conséquences des actions des États-Unis, même si elles sont indirectes. Et puis, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a indiqué que, toujours dans une escalade de ce combat, on va dire qu'il y a entre commercial et sécurité, on ne sait pas trop, il considère l'idée de bannir TikTok et d'autres applications de réseaux sociaux chinois des États-Unis. Alors, on a eu des rumeurs selon lesquelles TikTok était un aspirateur à données pour la Chine, ce qui n'a pas l'air d'être... Je vous avoue que je n'ai pas vu d'indication qui tendrait à justifier ces affirmations. TikTok, d'ailleurs, fait d'énormes efforts pour se distancier du gouvernement chinois. Mais donc, bref, ce combat entre les États-Unis et la Chine continue à avoir des conséquences. D'ailleurs, TikTok a été banni pour d'autres raisons d'Inde. Et Instagram a lancé Reels en Inde, qui est son... concurrent à TikTok, mais immédiatement ils se sont jetés dans la bataille. Et puisqu'on parle de Chine, et je vais vous laisser la parole, là pour le coup, il y a de nombreuses sociétés, WhatsApp, donc Facebook, Telegram, Google, Twitter, qui ont dit qu'ils allaient arrêter de répondre aux demandes du gouvernement de Hong Kong sur leurs utilisateurs, demandes d'informations, parce qu'il y a une nouvelle loi qui vient de passer, selon laquelle la Chine a beaucoup plus de pouvoir sur ces données, justement, à Hong Kong, ce qui met à mal la politique, la doctrine de deux pays, de lois, de comportements. En gros, la Chine est en train d'essayer de récupérer plus d'informations sur les citoyens de Hong Kong pour évidemment affaiblir le mouvement de contestation à Hong Kong. Mais ce qui est notable, en tout cas, c'est que Facebook, qui d'ailleurs n'est pas en Chine, hein, c'est l'un des seuls, on les critique beaucoup, mais ils ont toujours tenu bon sur le fait qu'ils ne seraient pas en Chine, mais Facebook et d'autres ont dit « bah ok, donc on va arrêter de répondre aux demandes tout court pour Hong Kong ». Donc c'est notable. Voilà, ça fait pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur ces points-là. Pas du tout, donc bah, on, peut parler de... on peut parler d'Amazon qui a signé un accord avec qui a racheté la start-up Zooks pour, bon, une broutille, hein, 1,2 milliard de dollars, mais c'est une start-up qui fait des voitures autonomes. Et donc, ça augmente encore les probabilités que Amazon soit en train de travailler pour ses livraisons, à automatiser ses processus et donc à autonomiser ses livraisons à terme. Hein, ça ne va pas être pour tout de suite, mais c'est vraiment quelque chose qui continue à être sur le devant de la scène dans tous ces domaines-là. À noter également qu'ils ont réduit leur empreinte carbone par dollars dépensés, je parle toujours d'Amazon, mais qu'évidemment, étant donné l'augmentation de leur activité, l'empreinte carbone a augmenté par rapport à 2019 de 15%. Donc, même s'ils dépensent moins d'empreinte carbone par dollars dépensés par les utilisateurs, dans l'ensemble, ça augmente. Je pense qu'évidemment, il faut faire plus. On peut dire qu'un argent dépensé chez Amazon, du coup, un dollar dépensé chez Amazon relâche moins de CO2, peut-être qu'un dollar dépensé chez quelqu'un d'autre, mais il n'empêche, étant donné l'augmentation de leur activité, ça veut dire qu'ils émettent plus. Mais c'est important à mettre en parallèle.
Ouais, ils émettent plus mais moins, quoi, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Plus mais moins, il faut faire plus d'efforts, c'est sûr.
Est-ce qu'ils vont arriver à mettre un algorithme dans les trucs de livraison automatique qui te dira « Je suis passé, mais vous n'étiez pas là
». Écoute, c'est absolument...
un truc aléatoire, tu sais.
S'ils veulent concurrencer les méthodes de livraison classiques, ils ont intérêt à le faire.
Bah ouais, non, mais pour le charme, tu vois, qu'on se rappelle du bon vieux temps, ça sera important pour humaniser le truc, quoi.
À mon époque, on était pas livrés.
On n'était jamais sûr de recevoir.
C'est ça. Maintenant, tout est propre, tout est...
C'est chiant.
Aseptisé. Oh.
Tu sais que je fais vraiment une anecdote, mais on rigole. Mais moi, quelqu'un, il m'a dit « J'aime pas le Mac parce que je dois jamais le réparer. » Enfin, je dois jamais le dépanner, en fait. Il y a un plaisir dans les trucs qui marchent pas bien.
C'est vrai.
Dis ça à Corben s'il doit pas dépanner son Mac.
Oui, j'ai vu. Mais c'est le problème du Mac, quand ça marche pas, ça marche vraiment plus.
Ouais, problème matériel, on peut pas faire grand chose en réparation, surtout qu'il est encore en Apple Care, donc je vais pas me faire chier.
Ah bah oui, clairement.
Discord, on a beaucoup parlé de Zoom et des outils de communication ces derniers mois, évidemment, avec la pandémie. Discord, qui est un outil de communication qui s'est conçu lui-même pour les gamers, a levé encore 100 millions de dollars.
C'est comme une manette, hein, l'icône. Hein.
Oui, complètement. C'était vraiment pour les gamers qu'il s'est imaginé. Eh bien, ils ont mis en place une initiative pour s'étendre encore plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait dans l'éducation, il y a quelques mois, des classes qui utilisaient Discord de manière très intelligente, avec des salons vocaux qui avaient les noms de classe, en fait, enfin les numéros de classe. Donc on pouvait dire, on a notre serveur Discord pour l'école, on a des numéros de classe pour salons vocaux, et quand on doit aller dans telle classe, eh ben on va dans tel salon vocal. Bref, il y a énormément de gens qui commencent à utiliser le service pour plus que simplement les communautés de gamers, et donc ils veulent essayer de capturer ce marché qui est beaucoup plus large, et c'est motivé par, effectivement, concrètement, une utilisation que font d'autres communautés du service, qui est quand même assez bien conçue. Donc c'est intéressant à noter aussi, ils ont 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aujourd'hui, ce qui est une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière, la même période l'année dernière. C'est évidemment notable. Je trouve qu'ils tirent bien leur épingle du jeu. Il y a Zoom qui font un truc très pro et eux, ils font des communautés. Je trouve que ça marche pas mal.
Nous, moi, je sais que je suis fan de Discord, on a basculé dessus, mais je me pose, et peut-être que vous avez peut-être plus l'information, mais c'est quoi exactement leur business model à Discord ?
Alors, il y a plusieurs choses. Tu peux prendre un abonnement Nitro.
Oui, mais ça, on sait que ça, c'est du... Je pense pas que c'est leur business. Enfin, je sais qu'il y a ça, mais...
Ah bah c'est... Alors,
tu penses qu'ils arrivent à vivre avec ça ?
Ça, j'en sais rien, mais je peux dire que c'est leur business model aujourd'hui. Il y a des abonnements Nitro et des boosts de serveurs qui sont leur moyen de financer les serveurs, et ils se reposent sur les financements.
Il n'y a pas du tout de collecte de données, ou il n'y a pas du tout de...
Franchement, je crois pas. Peut-être qu'ils voient quel jeu jeux les gens jouent et ce genre de choses.
C'est ce que je me disais, parce que ça, ça vaut plus d'argent, quoi. Mais
c'est possible, c'est possible. Mais oui, c'est sûr qu'ils sont clairement dans cette dynamique Startup Nation des années 2010, on va dire, où on va accumuler des utilisateurs autant que possible et puis voir comment on monétise après, comparé à après, une société comme Slack qui fait payer tous ceux qui veulent utiliser le service et qui le vend à des sociétés, quoi. Et c'est cher, hein, Slack. Mmh. Slack, c'est minimum 6 dollars par utilisateur et par mois. Hein.
Slack, tu comprends leur business model,
Ouais. Mais tu disais, Cédric, le boost de serveur.
Ouais, quand tu boostes les serveurs, c'est assez important si tu veux vraiment l'utiliser de manière professionnelle parce que, bah, par exemple, de base, tu es limité à des fichiers qui ne dépassent pas 5 ou 8 mégas. Enfin, tu vois, il y a pas mal de limitations. Mmh. Et les boosts de serveurs permettent d'augmenter bon, la qualité audio du serveur, c'est une chose, mais tu peux personnaliser aussi la bannière du serveur. Tu peux vraiment le mettre à ton image. Et ça compte en fait pour des sociétés par exemple ou même pour des écoles qui l'utilisent.
Des communautés en général, oui.
Ouais, des communautés de manière globale. Donc je pense que oui, ça fonctionne. Je ne me souviens plus d'ailleurs le prix du truc, mais c'est pas très cher. Le premier niveau de boost, je crois que c'est 5 dollars ou un truc comme ça.
Le premier c'est 5 dollars, le deuxième c'est 15 dollars, le troisième c'est 30 dollars. Ouais, donc ça reste. Pardon, je te dis.
Et tu peux avoir carrément. Le dernier, tu as carrément une URL personnalisée pour ton serveur. Ouais. Tu vois, donc,
C'est plus que ça. Hein. C'est 30 boosts, donc 30 fois 5 dollars, donc c'est 150 dollars et 75 pour le niveau 2. Pardon. C'est 75 dollars pour le niveau 2, 150 dollars pour le niveau 3. Donc,
voilà, mais tu peux avoir vraiment ton truc personnalisé et tout ça. Donc voilà, moi je peux vous dire un truc quand même. Là, je côtoie des jeunes de par mon métier. Non, je ne suis pas.
Arrête-toi.
Okay. Mais donc je les vois en fait. Ils ont tous une quantité de serveurs Discord. C'est-à-dire qu'autant vous leur dites, est-ce que tu as une page Facebook ? Il y en a 1/10 qui te dit oui. Et encore, c'est pour faire plaisir à mon père. Tu leur demandes s'ils ont un compte Twitter. Là déjà, t'es à 60-40, tu vois, 60% qui en ont pas. Tu leur demandes s'ils ont un compte WhatsApp. Là déjà, tu passes à 90% qui ont du WhatsApp. Instagram, c'est 100% des 17 ans, tu vois, 17-20 ans. Et tu leur demandes s'ils ont Discord. Tous ont Discord. Tous ont au moins sont connectés à 1, 2, 3, voire plus de communautés encore Discord. Ils ont monté des trucs avec leurs potes pour s'organiser des sorties, des machins, des trucs. Enfin. Moi, les étudiants que j'ai qui rentrent en première année là, en septembre, ils ont monté un Discord Epitech sur lequel ils s'échangent entre eux. La promo, déjà, ils se rencontrent pour faire des trucs. Là, ils sont en train de parler du bac, tu vois, genre, est-ce que tout le monde a son bac, machin, nanana, enfin, tu vois. Et ils s'organisent des soirées, et ils parlent de jeux vidéo, de sport, de trucs. Et en gros, c'était nos forums de l'époque. Sauf qu'à l'époque, on se faisait tellement chier avec PHPBB et toutes ces conneries que bah là, ils ont Discord. C'est un outil où en deux clics, tu as monté ton serveur, tu mets une image et puis en avant, tu invites tes potes et voilà quoi.
Ouais, on
et est ils, ont tout, ils sont tous là-dessus. Et c'est un usage qu'on... Bah, vous voyez, même nous, Slack est compliqué à configurer à côté, en fait.
Ah, moi, je trouve.
Ah oui, donc, non, Slack a plein de désavantages, mais c'est pas le même public. Ouais.
Mais complètement. Mm. Très, très clairement, c'est pas le même public. Mais Discord, justement, leur parle complètement, en fait. Donc c'est carrément devenu leur c'est pas un réseau social mais c'est devenu leur plateforme d'échange privé en fait. Ouais. Tu vois, ils vont pas sur Facebook créer un groupe privé, ils font ça sur Discord en fait, ouais, discuter entre eux, s'organiser, tout ça quoi.
Et donc voilà, si vous ne connaissiez pas Discord, maintenant vous connaissez. Écoutez, on va conclure l'épisode. Je vais quand même vous dire un petit mot sur Podcast Addict. Xavier de Podcast Addict m'a demandé si je pouvais vous dire deux petites choses sur leur nouveau service. Alors, c'est pas vraiment une quoi, pardon ?
Combien il t'a payé pour dire ça ?
Ben justement, c'est pas vraiment une pub. Il m'a dit qu'il serait, qu'il gentiment me mettrait sur les certaines bannières qui sont pas utilisées sur son site, mais c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Il a une app de lecture de podcast sur Android qui s'appelle Podcast Addict, qui a déjà énormément d'utilisateurs. Croyez-moi, il a pas besoin de moi. Mais par contre, un truc qu'il lance et qu'il aimerait faire connaître auprès des podcasteurs. C'est Podcast Addict Ads, justement. C'est un service où on peut payer, si on est podcasteur, pour mettre une petite pub à différents endroits de l'application. Et c'est une application qui est gratuite, qui marche super bien, sur laquelle il passe énormément de temps à la mettre à jour. Il répond sur Twitter tout le temps. Moi, je le vois, mais il fait des recherches pour répondre aux gens. Enfin, c'est un dingue, ce type. Et il est hyper actif. Et donc, il a différents moyens pour avoir des revenus. Et ça répond à l'un des problèmes en plus qu'ont de nombreux podcasteurs, c'est comment se faire connaître. C'est très très difficile dans le monde du podcast de se faire connaître, de se faire découvrir. Et ben là, ils proposent, comme font d'autres applications de podcast, de faire de la promotion dans l'application. Donc si vous êtes podcasteur et que ça pourrait vous intéresser, allez jeter un coup d'œil au truc. C'est sur l'URL podcastaddict.com/ads. C'est très simple, ça vous explique tout ça. Alors, les tarifs dépendent de la langue, de machin, tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pour rendre service à Xavier, avec qui je suis en contact depuis très, très longtemps et qui est vraiment hyper actif et cool, que je vous en parle. Donc, si vous êtes podcasteur, allez jeter un coup d'œil du côté de Podcast Addict Ads. Je pense que ça pourrait vous rendre un bon service et en plus, rendre un bon service à Xavier. Donc, moi, je trouve que c'est du gagnant, gagnant, gagnant. C'est vraiment cette formule qu'on essaye de reproduire partout et j'espère que ça fonctionne. Et une autre formule gagnant, 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 c'est celle où moi, Jérôme, Cédric, Corben et vous tous, vous gagnez à participer et à écouter l'émission. J'espère que ça a été un exemple de ce précepte. C'est encore cet épisode que vous avez passé un bon moment avec nous. Et avant de se quitter, bien sûr, je voudrais donner à chacun d'entre vous l'opportunité de me dire où on peut vous retrouver. Jérôme, go.
Eh bien, sur YouTube, la chaîne Nowtech, et sur Twitch, Nowtech QG pour nos lives.
Cédric.
Alors, moi, on me retrouve sur renegade.fr et sur Twitter, @CédricBonnet. Voilà.
Merveilleux. Corben.
Bien sûr, corben.info, le blog. Et puis sur Twitch, hein, comme Jérôme, mais moi, c'est CorbenFR.
Et puis, c'est toute la journée, Corben.
Ah ouais, moi, c'est...
Tu sais que tu me réveilles le matin. Je me réveille à 6h et t'es déjà sur Twitch, quoi. J'hallucine complètement. T'es un malade. Et quand tu vas aux toilettes, tu t'amènes ta communauté avec toi ou pas?
Je mets en pause et je leur dis je vais pisser.
D'accord.
Voilà. Okay. Et ce matin, j'ai fait de la compta avec eux.
En fait, Corben est en train de réinventer la Real TV.
C'est ça.
C'est de la télé-réalité. En plus, les enfants viennent me parler. Enfin, c'est la teuf, quoi.
C'est excellent.
Voilà. Magnifique. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. La réalité TV de la Finlande avec la forêt. Si vous voulez voir ça, c'est effectivement sur Instagram, NotPatrick. Et bien sûr, vous le savez, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Maintenant, l'émission se termine, donc il n'y a plus d'excuses. Cling Patrick quand vous rentrez à la maison. Ou alors maintenant, si vous allez au frigo pour prendre un petit verre d'eau ou une petite bière, et ben vous dites « Ah, ça y est, je suis levé, j'ai arrêté mon boulot, ben, je vais aller faire un petit tour du côté de patreon.com/rdvtech pour voir de quoi il s'agit. » Ça serait énormément apprécié. Et bien sûr, si vous voulez commenter sur l'épisode, Dieu sait qu'il y a des choses à dire, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous fait d'énormes bisous, comme ça, tout grand, si vous le souhaitez. Hein.
Bisous, bisous.
Bisous aux gens qui ne veulent pas. Mais si vous voulez, ils sont là, et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.